Vous écoutez le studio Kalangou, il est 18h à Niamey au programme de ce journal. Les titres de cette édition, la clôture du 16e sommet de la francophonie à Madagascar après 2 jours de travaux avec l'adoption de la déclaration d'Antananarivo. À cette occasion, le président de la République, dans son allocution, a mis l'accent sur la sécurité dans le Sahel. Suite à l'interpellation du Premier ministre sur la situation de l'école nigérienne dont nous parlions hier, les députés des partis de l'opposition ont réagi. Vous entendrez le président du groupe parlementaire Zamzam Lumana, Soumane Sanda, dans cette édition. Réaménagement des sites miniers après exploitation, c'est le thème d'un forum organisé ce week-end à Arlit par une ONG spécialisée. Plus de détails dans un instant. Enfin, vous suivrez la partie magazine, un condensé de l'actualité nationale de la semaine qui s'achève. Le développement de tous ces titres avec Raylat Soumana. Le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ouvert hier à Antananarivo au Madagascar a pris fin aujourd'hui. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration d'Antananarivo. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Le résumé de ce discours avec Adama Dawaki.
Dans son intervention, le président Issoufou Mahamadou a remercié la francophonie pour avoir rendu hommage au premier président de la République du Niger, Djuri Hamani, l'un des pères fondateurs de la francophonie. Pour Issoufou Mahamadou, le thème du 16e sommet est plein de symboles forts et porteurs auxquels le Niger s'associe pleinement. Selon le président Issoufou, les questions de sécurité ont pris une dimension nouvelle et surprenante avec l'entrée en scène d'acteurs non étatiques au moyen colossal. Acquis sur les trafics de tout genre et utilisant des méthodes asymétriques terroristes, ce qui, déclare Issoufou Mahamadou, constitue un vrai défi pour la communauté internationale et en particulier pour les pays membres de l'espace francophone, une situation qui a conduit ces derniers à mutualiser leurs moyens pour lutter contre ces défis sécuritaires sur le long de la Koumadougou-Yobé et du bassin du lac Tchad avec la mise en place d'une force multinationale.
Ouverture hier à Arlit d'un forum sur l'après-mine. Cette rencontre de 48 heures a pour thème réaménagement des sites miniers après exploitation. Ce forum est organisé par l'Organisation pour la protection de l'environnement, ONG Agir Man, avec l'appui de la Fondation Rosa Luxembourg. Pourquoi le choix du thème et quelles sont les attentes? Al-Mustapha Alassane, président de l'ONG, répond au micro de Moussa Mamman.
Si nous parlons d'après-mine, il y a beaucoup de problèmes derrière cette question. Il y a d'abord ces mines qui sont là. Si on n'en avait plus, on n'a qu'à les fermer, que les animaux des gens ne rentrent pas dedans. Et que si on en a besoin, qu'on les garde sérieusement et qu'on donne à l'État ses droits, tout ça, là, il faut le faire. Donc voilà, en fait, l'idée d'après-mine. Et j'ai dit le réaménagement du site. Et ce réaménagement du site, si on veut le faire, il faut mettre l'argent en place dès maintenant. C'est pas demain quand on va fermer qu'on va nous dire que l'argent, il va venir d'où. Parce qu'aujourd'hui, aucune société ne peut vous dire quelle, combien de mètres cubes à remplir. Moi, j'ai ma carrière derrière moi. Tu les vois bien, je suis à la retraite. Et ce combat de l'uranium a 4,3 milliards d'années de vie. Cependant, il faut que les jeunes les prennent. Il faut qu'ils les prennent en charge. Moi, je suis en train de me retirer. Donc, ces jeunes-là, c'est pour qu'ils prennent la chose. Voilà, en fait, toute l'idée.
Fin de la tournée de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2016-2017 de la région de Tillabéri le vendredi passé. Après avoir sillonné tous les 13 départements de la région, le ministre chargé des enseignements professionnels et techniques Tidjani Idrissa Abdul Kadri a dressé le bilan. C'était en présence des préfets et des responsables techniques. Selon lui, cette année, les campagnes agricoles et pastorales sont déficitaires. Toutefois, elles restent meilleures que celles de l'année précédente.
Sur les 2000 villages agricoles de la région, 773 villages sont déficitaires, soit 38,65% contre 58% en 2015. Sur le plan pastoral, le disponible fourrager pour l'effectif résident UBT de 2,687,481 est de 2,218,691 tonnes de matière sèche pour un besoin fourrager de 4,568,718 tonnes d'où un déficit de l'ordre de 2 350 027 tonnes de matières sèches. À la lumière des résultats ainsi enregistrés, les populations ont fait un ensemble de propositions, dont entre autres la poursuite de l'opération bouture de manioc, l'intensification des cultures irriguées, la restauration de l'environnement à travers des actions à haute intensité de main-d'œuvre, la poursuite des opérations vente de céréales à prix modéré et d'aliments, ce qui à terme devrait permettre une amélioration de la situation alimentaire.
C'était Tidjani Idrissa Abdulkadri, ministre des Enseignements professionnels et techniques, au micro de notre correspondant Abdoulaye Mamoudou. Les députés des partis de l'opposition ont animé un point de presse hier dans la soirée. Ce point de presse fait suite à l'interpellation du Premier ministre et des membres du gouvernement sur la situation de l'école nigérienne. Soumane Sanda, président du groupe parlementaire Zamzam Lumana, estime qu'il y a violation flagrante des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Nous avons par la suite compris qu'en réalité, on voudrait escamoter le débat sur l'école nigérienne. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'école nigérienne se trouve dans une situation de lambeau où, comme nous l'avons dit, qui à une certaine époque, ils considéraient que les autres étaient les ennemis de l'école, aujourd'hui, ils en sont le bourreau. Donc nous avons voulu faire un débat contradictoire qui permettrait à la fin de trouver des solutions puisque nous avions des propositions à faire. Et vous avez observé que c'est ces propositions-là qui n'ont pas voulu que nous fassions passer, surtout que le débat a lieu en direct. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la situation de l'école, elle est catastrophique.
C'était Soumane Sanda au micro de Soumana Amadou. La journée parlementaire sur la statistique au Niger est initiée par l'Institut national de la statistique INS en collaboration avec le réseau parlementaire pour la promotion de la statistique au Niger. Les travaux ont été présidés par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle est l'importance de cette journée? Écoutons Isaac Manzo, président du réseau parlementaire pour la promotion de la statistique au Niger.
La statistique rentre dans tous les secteurs du développement dans un pays organisé, surtout dans un monde mondialisé où tout se fait sur la base de la prévision. Je crois que cette journée est quand même d'une grande importance pour nous autres députés. Vous avez bien entendu dans la salle, certains députés ont souhaité que cette journée, pourquoi elle n'a pas eu lieu avant l'adoption du budget. Peut-être que ça allait changer beaucoup de choses.
J'avoue que les données statistiques, c'est vraiment une matière sur laquelle je ne peux pas prendre le risque de me prononcer. Je laisse les soins aux spécialistes. Moi, je suis député, je suis un homme politique. J'ai plutôt tendance à utiliser les données pour faire mon travail.
Propos recueillis par Soumana Amadou. L'État et les autres organismes pour leur bon fonctionnement se basent sur les données statistiques pour leur prise de décision par rapport à des situations données. Au Niger, l'Institut national de la statistique INS est l'organe central du système statistique. Il est présent dans toutes les 8 régions du pays, faisant ainsi un travail de coordination de la production statistique. L'Institut jouit aussi d'une indépendance administrative et financière par rapport à sa gestion. Plus de précision sur son fonctionnement avec Mamansani Dodo Isaka, chef de division des directions régionales à l'INS de Niamey.
C'est l'Institut national de la statistique qui a le mandat de production de statistiques officielles. Néanmoins, vous pouvez trouver des organismes qui peuvent conduire des petites activités de collecte des données pour des fins d'activité à leur niveau. Donc, comme tout est pas, l'Institut tire ses ressources non seulement de la subvention que l'État lui accorde, mais aussi des autres activités qui peuvent générer des ressources additionnelles. L'essentiel des activités que nous menons sont basées sur la production des statistiques, non seulement administratives courantes, mais complémentairement, nous faisons des enquêtes spécifiques à la demande parfois des partenaires, de l'État, mais aussi pour les besoins de l'Institut. Et ces enquêtes, en général, ont une portée nationale et nécessitent de fait de gros moyens. Donc l'Institut, pour le moment, arrive à faire les activités telles que lui permettent les moyens de bord. Donc on ne pourra pas dire qu'on est satisfait totalement d'un point de vue financier, mais pour le moment, les ressources que nous avons permettent de mettre en œuvre le programme d'activités que nous élaborons chaque année.
Sport football dans cette édition, dans le cadre de la journée mondiale du sida célébrée chaque 1er décembre, la coordination intersectorielle de lutte contre le sida en collaboration avec l'UNFPA et l'ONU sida organise un tournoi de football des moins de 15 ans. 8 équipes de jeunes s'affronteront au stade municipal de Niamey du 26 novembre au 3 décembre 2016. La coordinatrice du SILCS, Alousseini Zeynabou, explique les objectifs de ce tournoi au micro de Moussa Hassan.
Comme vous savez, chaque année, nous célébrons la journée internationale de la lutte contre le sida, la journée du 1er décembre, et nous profitons toujours pour faire du mois de décembre un mois de visibilité. Nous avons constaté que le niveau de connaissance de cette infection-là commence à baisser au niveau de la population jeune. Donc c'est pour ça que nous avons initié ce tournoi. Nous avons voulu rentrer dans le jeu favori des jeunes, le football, et profiter pour donc sensibiliser ces jeunes-là et faire en sorte que ces jeunes puissent aller sensibiliser leurs collègues dans les écoles, dans leurs fadas, et se dire que le VIH est là, se dire comment est-ce qu'on peut éviter le sida. Et se dire également que les personnes qui sont porteuses du virus ne sont pas des personnes à discriminer, à stigmatiser, pour qu'ensemble nous puissions éradiquer le VIH. L'idée pour nous, c'est qu'on profite pour proposer le test à chaque moment. En dépistant, on traite. Et en traitant, on évite l'apparition du sida. Parce que le virus du VIH ne tue pas, c'est le sida qui tue.
En match d'ouverture, l'AS Ouragan a battu l'AS Nigelec au tir au but 4-3 après un match nul 0-0 dans le temps réglementaire. Début hier des matchs entrant dans le cadre du tournoi de football de l'intégration de l'UEMOA à Lomé au Togo. En poule A, le MENA national du Niger a rencontré les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Kégué. Le match s'est soldé par un match nul 0-0. L'autre match de la poule A a opposé l'équipe du Mali à celle du pays hôte, le Togo. Score final 1-0 en faveur des Aigles du Mali. Le MENA jouera son second match de poule le mercredi 30 novembre prochain contre le Mali.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Place à présent à la partie magazine de cette édition avec un condensé de l'actualité nationale, la rétrospective avec Adama Dawaki.
Sur le plan sécuritaire, des experts de la défense des pays membres de l'État Kogourmand ont tenu mardi et mercredi une réunion à l'état-major des armées. La rencontre visait la mise en place d'une stratégie commune pour répondre aux défis sécuritaires transfrontaliers, dont la création d'une force d'intervention des pays de l'État Kogourmand à l'image de la force MITS multinationale mise en place par les États pour faire face à la menace Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Et puis l'Union européenne accompagnée de l'État du Niger en partenariat avec l'Agence française de développement a lancé cette semaine un projet qui porte sur la réalisation d'une centrale hybride photovoltaïque diesel d'une puissance de 11,2 MW. La centrale va fonctionner d'une part à l'énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques et d'autre part au diesel. L'objectif, c'est de renforcer la capacité de la société nigérienne du charbon Sonisha qui alimente les principales villes de la région en électricité et aussi pour pallier à la récurrence des coupures. L'actualité, c'est aussi la situation de l'école nigérienne. Le ministre des Enseignements secondaires, Sani Abdrahman, représentant le Premier ministre, était hier à la tribune de l'Assemblée nationale pour répondre à la requête du député de l'opposition, Madame Amina Abdou Souna. La question a été débattue à l'absence des députés de l'opposition au terme de l'interpellation. Autre fait de la semaine, lundi dernier, le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN, a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire. Mais après plusieurs heures de dialogue entre le gouvernement et l'USN, un accord a été signé suspendant la grève. Quant à la coalition cause Niger, SINASEB, elle a maintenu son mot d'ordre de semaine noire de 4 jours après l'échec des négociations avec le gouvernement. Sur le front social, toujours, le syndicat des agents des collectivités territoriales de la ville de Niamey a observé un arrêt de travail de 5 jours sans service minimum. Ces agents demandent toujours le paiement d'au moins 5 mois de salaire. La motion de défiance déposée contre le maire central de Niamey, Sansedou, n'a pas été débattue, motif avancé le non-respect du délai réglementaire pour la convocation de la session censée débattre de la question selon une lettre adressée par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, au maire central le 24 novembre dernier.
Il est 18h passé de 15 minutes. Vous écoutez le studio Kalangou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.